Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours sans public au théâtre de l'Alliance française pour un deuxième Masque et la Plume consacré à la rentrée littéraire de janvier avec Patricia Martin des Petits Matins du week-end de France Inter, Jean-Claude Raspienjas de La Croix, le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française et Arnaud Vivian, notamment de Transfuge et de Regard. On ira ce soir à Détroit, USA avec Judith Pérignon, à Rome avec Mathieu Lindon et Feu Hervé Guibert, en Sibérie avec Andrei Makin, dans un Minnesota post-apocalypse avec Louise Erdrich, et on retournera avec Yvan Jablonka dans la France des années 70-80. Dans le courrier de la semaine, retour une fois encore sur le prix Goncourt 2020 qui fait un malheur en librairie. C'est l'anomalie d'Hervé Le Tellier chez Gallimard. Et contrairement au courrier précédent, nos auditeurs se rangent plutôt cette fois derrière Nelly Caprielian. Pour Mario Kaplan de Paris, l'anomalie semble écrite par un algorithme, cocktail de clichés versés dans le shaker de la littérature Netflix, le tout émaillé de formules d'écrivains. Nous terminons, ajoute Michel et Marité Dagorn de Saint-Brieuc, la lecture de l'anomalie et apportons notre soutien à Nelly qui a été bien courageuse face à la vindicte de ses collègues et même on peut ajouter de l'animateur. La comparaison avec Netflix nous paraît tout à fait juste. Non, Hervé Le Tellier n'est pas Jules Verne. Ahmed Boussetla, puis il y en a d'autres, hein, reconnaît que Le Tellier est un virtuose, mais on se laisse prendre au début, puis on décroche, on continue la lecture, mais on est indifférent à l'histoire. L'auteur s'est fait plaisir, pas moi, et je suis d'accord avec Nelly Caprielian. Je pense que c'est tout ça proportionnel au succès incroyable du livre. Je crois que c'est plus de 800 000 exemplaires vendus à ce jour.
Il faut dire qu'il y a beaucoup de publicité.
Il y a aussi beaucoup de publicité, y compris sur notre antenne. Et il est possible aussi que ceux qui ont moins aimé se déclarent. Ils viennent de le faire ici dans Le Masque et la Plume. Et puis un peu de baume au cœur avec Isabelle Schippers, qui habite la Belgique et qui nous écrit « Je suis médecin ». Mais c'est vous qui m'êtes essentiel, car au travers de votre masque, vous me donnez l'oxygène vital ainsi que l'occasion de prescrire la bibliothérapie à mes patients. Je souhaite remercier notamment Olivia de Lamberterie pour son conseil de « On fait parfois des vagues » d'Arnaud Dudek chez Anne Carrière, plume délicate pour parler de l'adoption, la paternité et la transmission. Antoine Duban de Champs-sur-Marne répond à Michel Crépu. Michel. Bonsoir Michel, qui recommandait deux inédits de Paul Valéry, Le Yalou et Orient et Occident. Or, ces textes, Michel, sont tout sauf inédits, nous dit Antoine Duban. Ils figurent dans l'excellente collection que tu connais bien de la Pléiade. Enfin, Sylvain Vergès, qui est restaurateur au Pays Basque, remercie les critiques littéraires du Masque pour leurs conseils, qui aident à tenir le coup, à garder le moral en ces temps désœuvrés. Quand nous aurons enfin le droit, je les invite tous à venir manger à la réouverture de ma petite brasserie à Bayonne.
On y va.
Ah, ils ne donnent pas le nom, évidemment. Mais attention, celles et ceux qui ont consciencieusement lu les livres auront le menu complet, mitonné avec amour. En revanche, les critiques plus désinvoltes, qui n'ont fait que survoler les ouvrages, risquent de retrouver dans leur assiette des mets manquants de cuisson ou du poisson non écaillé. Je conseille aux AROC et à la NRF de prévoir des sandwichs en sortant. Et à la fin, il y a, mais je ne parle pas le basque, Milesker Garcin Jona, Eta Urte Berion. Merci Monsieur Garcin et bonne année, et c'est en basque, voilà. Merci en tout cas pour l'invitation, nous irons peut-être, certains en tout cas, à Bayonne, n'est-ce pas Patricia?
Ah, j'adore. Hein,
on commence avec Hervé Lino, c'est le livre chez POL que consacre Mathieu Lindon à celui dont il a fait la connaissance en 1978 chez Michel Foucault, c'était l'objet d'un de ses livres précédents, c'est-à-dire l'écrivain et photographe Hervé Guibert. D'emblée, il a italianisé son prénom, et d'autant plus naturellement que 10 ans après leur première rencontre, ils ont été tous les deux pensionnaires à la fameuse Villa Médicis à Rome, où ils vont rester jusqu'en 1990. Guibert venait alors d'apprendre qu'il était séropositif et il est mort le 27 décembre 1991 après avoir publié le fameux « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » où d'ailleurs Mathieu Lindon apparaît sous un nom d'emprunt. Hervé Lino, c'est donc le récit de leur cohabitation sur la colline du Pinchot, de leur compagnonnage littéraire, Guibert faisant lire ses manuscrits à Lindon qui proposait conseils et corrections. Et à la fin du livre, il reproduit en facsimilé toutes les dédicaces des livres d'Hervé Guibert à Mathieu Lindon, celle-ci par exemple, sur l'exemplaire du protocole compassionnel à Mathieu, l'amour de ma vie que j'aime plus que tout, à mon loup adoré, le génie modeste, mon lapin chéri, à qui je fais toujours et pour cause les mêmes dédicaces depuis 13 ans. Hervé Lino, Mathieu Lindon sur Hervé Guibert avec Hervé Guibert, Jean-Claude.
Alors, non seulement on a affaire à un registre de l'autofiction, mais moi je range ces livres, il commence à y en avoir de plus en plus, dans la catégorie que j'appelle la littérature paroissiale.
Paroissiale ?
Paroissiale, c'est-à-dire que c'est une tendance qui est en augmentation, c'est-à-dire qu'on a affaire à un tout petit monde.
Et c'est le critique de la Croix qui nous dit...
Oui, justement.
Qui branche dans le paroissial.
Justement, c'est un tout petit monde qui nous entretient beaucoup de ses amours, de sa vaste vision philosophique du monde, et qui se résume à des peines de cœur et de cul. Et je trouve que ce livre est un livre symptôme de...
Il n'y a pas que ça dans ce livre.
C'est un livre symptôme de ça. Si au moins le style de Mathieu Lindon suppléait le vide du propos, je dirais oui, mais ça n'est pas le cas. Et faute d'ampleur de vue, je trouve que l'écriture est à l'avenant, c'est-à-dire c'est étroit, c'est sans grandeur, on se croit dans une cour d'école. Je prends plusieurs exemples. La désinvolture que met Mathieu Lindon pour essayer de rentrer à la Villa Médicis, la façon dont il y entre, moi, m'a assez déplu. C'est-à-dire, il y a tellement de candidats qui ont d'autres valeurs et qui pourraient y rentrer. La grande affaire de ce livre, c'est de trouver...
Ce qu'il dit, c'est qu'arrivé là-bas, il n'écrit plus.
Non, mais même la façon d'y entrer, la désinvolture avec laquelle
il raconte. Un peu des combinations pour rentrer à la Villa Médicis.
Bon, et bien, la désinvolture personnelle de Mathieu Lindon.
Il a quand même raté la première fois, par ailleurs. Ouais. Non, il n'est pas rentré. Non, mais il faut être honnête.
Ouais.
Il n'a pas réussi à y rentrer la première fois. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un décalage avec Hervé Guibert, qui avait déjà passé une année en réalité. Donc, c'est pas tout à fait vrai.
Laissons Jean-Claude, parce que sinon il va exploser.
Je dis simplement que la désinvolture avec laquelle Mathieu Lindon raconte ça, mais moi personnellement pénible. Je trouve qu'une des grandes affaires à l'intérieur de ce livre, c'est de trouver chaque jour en restaurant dans Rome. Bon, très bien, c'est un des gros enjeux quotidiens de leur séjour à tous les deux. Il y a beaucoup de pages qui est consacrée à cette quête existentielle, à cette recherche de sens. Pour tout vous dire, moi j'ai été très gêné de lire ça, tellement j'ai trouvé ça puéril, insignifiant, très satisfait de soi, passablement mal écrit. Alors je suis désolé, je ne vais pas m'incliner, je vois très bien, évidemment, je ne vais pas m'incliner devant les deux grands thèmes de ce livre, qui sont évidemment et le sida et Hervé Guibert, mais désolé, pour moi, ces deux sujets exigeaient plus de grandeur et d'exigence dans le propos que ce propos-là, chichiteux, complaisant, nombrilique et ridicule.
Mais cela dit, si tu permets, Mathieu Lindon a toujours écrit de manière un peu expéditive. Je veux dire, c'est pas un styliste de la mélancolie, mais n'empêche que il dit des choses sur le travail de Guibert, sur son écriture, qui ne paraissent pas tout à fait inintéressantes.
Mais je trouve que le registre de Lindon n'est pas bien.
Sur l'écriture de Guibert, donc son talent et aussi sur la personnalité de Guibert, qui est quelqu'un, c'est peut-être aussi une façon pour certains de le connaître. Il y a plein de gens. Or, cet homme a été révolutionnaire. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, c'était absolument quand Gallimard a fait cette publicité parce qu'il n'avait reçu aucun prix. C'est la première la première victoire des mots sur le sida. Tu regardes, j'ai revu, moi, La pudeur et l'impudeur.
Est-ce que je peux me permettre juste une chose? Je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Je vous parle de Mathieu Lindon, pas d'Hervé Guibert.
Mathieu Lindon nous parle de
oui, je sais, d'accord. Mais la façon... Moi, je juge le travail de Mathieu Lindon, pas la postérité d'Hervé Guibert.
Et moi, je trouve... Alors, ce que tu dis sur les repas, etc., je trouve qu'au contraire, ça a quelque chose... Il fait ça, c'est très doux, même les goûters, les gens qui s'occupent d'eux à la Villa Médicis, les dessous aussi des cartes, bon, qui sont... On sait bien que c'est un petit peu... il faut avoir un peu d'entre-gens aussi pour y aller. Mais je trouve que... moi, j'ai été au contraire impressionnée par sa lucidité vis-à-vis de cet ami qu'il a tant aimé et qui a véritablement changé sa vie. Cet homme qui a été intransigeant...
Alors, je précise, parce qu'il le dit, ils se sont aimés sans être des amants.
Voilà, et quand tu résumes ça en disant c'est des affaires de cœur et des affaires de cul...
Cette insistance à nous dire qu'il n'a pas couché avec. Non, mais franchement...
Et je trouve le fait aussi, dans ce qu'il raconte des derniers moments de la vie d'Hervé Guibert, comment accompagner un homme comme ça jusqu'à la lisière de la mort? C'est pratiquement impossible compte tenu de la façon dont lui-même y est allé, qui encore une fois, moi je pense qu'avant lui, on n'avait jamais entendu ça. Je trouve que c'est un livre à la fois qui est tendre, qui est drôle, qui est tragique. Il voit bien que c'est ridicule de parler, d'écrire sur lui, alors il tourne un peu autour du pot. Enfin, moi, je trouve que c'est un livre pétri d'une sorte d'humilité orgueilleuse qui, moi, m'a replongé dans un bain extraordinaire.
On voit aussi la confiance qu'avait Hervé Guibert en Mathieu Lindon, à qui il faisait relire ses manuscrits. Ah, mais c'était un rôle important. Arnaud.
Avec moi, c'est exactement l'inverse de Jean-Claude. C'est précisément cette désinvolture qui m'a plu dans le texte de Lindon. C'est justement d'enlever Hervé Guibert de sa fin tragique et de le montrer absolument vivant, rigolard jusqu'à la fin. C'est ce qui est beau, justement, c'est que ce sont deux gamins. C'est une amitié entre deux gamins. Ils font des farces de gamins. Ils ont un rapport comme ça très léger.
Il le dit, on avait la bêtise joyeuse.
Voilà, très léger avec la vie. Ils ont effectivement cette chance d'être à la Villa Médicis, où ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit, même si Hervé Guibert, c'est ce que dit très bien Mathieu Lindon,
Mathieu Lindon. Mathieu Lindon est le fils de l'éditeur des éditions de Minuit.
Ce qui
Jérôme
fait
Lindon.
D'ailleurs que, contrairement à ce que tu dis, Jean-Claude, ça a été beaucoup plus difficile pour Mathieu d'accéder à la Villa Médicis du fait qu'il était le fils de Jérôme Lindon.
Je te rejoins là-dessus.
Ta vision est, à mon avis, assez fausse. D'ailleurs, je trouve que Mathieu Lindon explique qu'il a mis beaucoup de temps à écrire ce livre sur Hervé Guibert et qu'il a eu finalement l'entrée, le code, lorsqu'il a trouvé ce surnom qu'il lui donnait, Hervé Lito. Et que voilà, ça commence comme ça et ce Hervé Lito dit tout.
Hervé Lino. C'est merveilleux en italien, c'est merveilleux. Il donne beaucoup ce genre de... Quand on aime quelqu'un, quand on est tendre avec lui, on l'appelle comme ça, enfin on appelle les gens...
Et justement, ça enlève voilà, la charge tragique que représente pour nous Hervé Guibert. Par ailleurs, je trouve qu'il y a des réflexions sur ce qu'est l'autofiction. Donc quand même, Hervé Guibert est un des grands maîtres, parce qu'il a en plus renouvelé, à mon avis, le genre avec « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Et là-dessus, Mathieu Lindon, donc, qui dit « À cette époque-là, moi, je n'écrivais que des romans d'imagination, donc je ne me rendais pas compte ce que ça voulait dire de mettre des gens réels dans une fiction, enfin une auto-fiction ». Et il raconte là des choses très intéressantes sur le fait que même lorsque on ne lit pas un écrivain, celui-ci peut vous frapper. Parce que en fait, il y a eu tout un malentendu avec un ami qui ne m'a pas sauvé la vie. On savait que ça parlait de Michel Foucault, que Michel Foucault était une figure centrale, mais il n'était pas, Michel Foucault n'est pas l'ami qui n'a pas sauvé la vie d'Hervé Guibert. Et donc, il y a eu un malentendu là. C'est très intéressant parce qu'on est au cœur de ce qui va être l'autofiction et ce qu'elle va devenir aussi au début du 21e siècle. C'est un livre très intéressant aussi sur cette question.
Qu'en pense Michelangelo Crépu?
Je trouve que c'est un livre admirable. Je l'ai lu avec beaucoup d'émotion. Je ne connais pas du tout Mathieu Lindon. Je ne connais aucun des protagonistes de ce livre. Mais j'ai été très, très touché par ce livre qui manifeste un art de la distance, d'équilibre entre le désir et la distance. En effet, il dit à plusieurs reprises qu'il n'a pas couché avec Guibert. Et c'est effectivement pas le problème, comme tu disais, Jean-Claude. Mais la vraie chose qui est émouvante dans ce livre, c'est cette façon de faire exister quelque chose qui a été un amour et qui devient de la littérature. Ce livre, c'est comment le deuil donne naissance à de la littérature. Et ce qu'il réussit à faire là, Mathieu Lindon, c'est très exactement ça. C'est le récit de cette espèce de métamorphose qui transforme un malheur, un chagrin, en littérature. Quant à la distance, je prononçais ce mot de distance il y a un instant, ça m'a énormément frappé à la fin du livre, quand Guibert est mourant.
Oui, alors ça c'est quand ils sont rentrés en France et qu'il est à l'hôpital, où d'ailleurs Hervé Guibert ne veut pas que Mathieu Lindon vienne le voir.
Voilà, exactement.
Et Mathieu Lindon a d'autres choses à faire,
Et Lindon, il va à l'hôpital avec une amie commune, j'ai oublié son nom, et il reste dans la voiture qui est sur le parking pendant que l'ami va voir Guibert. Lui, il reste dans la voiture et il attend qu'elle revienne. Je trouve cette scène vraiment vraiment magnifique dans la simplicité, vraiment une sobriété, une espèce de modestie orgueilleuse, comme tu disais très justement. Et je trouve ça vraiment très étonnant, très beau.
Eh bien, on n'a pas convaincu. Je sens Jean-Claude Raspinjas.
C'est sans surprise.
Qu'est-ce qu'il y a sans surprise ?
Ce que j'ai entendu.
Comment ça, sans surprise ?
Mais je m'attendais à ça.
Attends, mais c'est une... Tu reconnais la sincérité des autres critiques, quand même,
est-ce,
non ?
Est-ce que c'est ça que je mets en doute ? Non.
Ah bah si, quand tu dis c'est sans surprise...
Non, mais je m'attendais à ça.
Tu penses que c'est une réaction... On a une réaction familiale...
Oui, c'est ça que je sens dans ta phrase.
Non, je trouve ça choquant.
Je m'attendais à ça. Je pensais que je serais en effet assez isolé. Je l'ai été. Et je m'attendais à ce que vous avez dit.
Bon, tu me demandes. C'est très choquant, je trouve, d'entendre ça. Excuse-moi, mais...
Mais non, mais il est sensé, il dit ce qu'il pense.
Hervé Lino, bonne année à tous. C'est chez Paul le nouveau livre de Mathieu Lindon, un garçon comme vous et moi. On met de côté Patricia hein, à ce moment-là. Oui. C'est après Laetitia en camping-car et surtout des hommes justes, sous-titré du patriarcat aux nouvelles masculinités, le nouveau livre au seuil de l'historien Yvan Jablonka, né en 73, qui explore ici ce qu'il appelle sa garçonnité. Non pas garcinité, hein, mais garçonnité. Dans les années 70-80, la masculinité n'a cessé pour moi, écrit-il, d'être un problème, une question en suspens. Il met ça dans le préambule de cette autobiographie de genre. Il remonte à sa naissance, en 73 donc. Il décrit son enfance de petit homme dans une famille babacool et naturiste. L'école, le lycée Buffon, les premières dragues, la découverte des films porno, les films de Truffaut, les chansons de Renaud, l'entrée en terminale au lycée Henri IV, le service militaire, les débuts de l'enseignant Jablonka avec toujours le projet, écrit-il, de mettre à jour l'ensemble des points de contact entre nos structures personnelles et les structures sociales. C'est encore un livre où il est à la frontière de son métier hein, d'historien et de ce qu'il veut être, c'est-à-dire, malgré les propos, je me souviens à propos de Laetitia, d'Arnaud, il veut aussi être écrivain. Est-ce que vous avez été convaincu, Michel ?
Non, la réponse est non. En ce qui me concerne, je n'ai pas été convaincu du tout, pour une raison d'ailleurs extrêmement simple, c'est que ce thème de la masculinité ou de la garçonnité, ou je ne sais plus comment on doit dire, ne dépasse pas dans ce livre le stade de l'approche sociologique. Et s'il y a bien un thème, tous les thèmes d'ailleurs, mais s'il y a bien un thème qui, à mon avis, ne peut pas se satisfaire d'être assigné à la case sciences sociales ou sociologiques, c'est bien le thème de la masculinité.
C'est-à-dire, voudrais que ce soit quoi ?
Je vais te dire, j'étais sidéré à la lecture de ce livre de constater qu'il n'y a pas un seul exemple dans ce livre qui viennent de la littérature. On veut faire un livre sur le garçon et on ne parle pas du grand môle, mais ça n'a pas de sens. C'est très limité, c'est très court, c'est très sec, c'est très théorique. Quelle horreur.
Patricia, qu'en pense la femme ?
La femme, oui. Il avait écrit des hommes justes aussi, alors je ne sais pas si...
Oui, ça découle des hommes justes.
Mais ça découle de ça. Et moi, alors, je peux vous dire que en tant que nana, je dirais que je l'ai lu avec énormément de plaisir, et que c'est un livre qui fait du bien, que d'abord qu'on se questionne...
Mais ma question c'était, est-ce que vous avez été convaincu ? Parce qu'il veut démontrer, oui. qu'il a été destiné à être un garçon depuis sa naissance.
Ben voilà, mais c'est vrai.
Est-ce que tu as été convaincu de ça ?
C'est absolument vrai. Moi, ça m'a fait rire aussi quand les comparaisons qui sont assez drôles avec le petit Louis XIII et les premiers jours du nouveau-né. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est une forme de dissidence assez douce. Tout comme au lycée Buffon, il s'est senti très seul, même vis-à-vis... Bon, d'abord parce qu'il était le seul juif de sa classe, et aussi parce qu'il était une sorte de garçon pas comme les autres, finalement, effectivement, et que plaire aux filles quand on n'est pas un peu... Parce que les filles aussi sont partie prenante de ça. Dans la séduction, on attend un peu qu'un mec soit un peu roule un peu des mécaniques, etc. Et lui, c'était récréa deux aussi, on peut ajouter
Goldorak...
Voilà, c'est ça. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point les petits mâles sont souvent élevés dans la compétition, voire même quelquefois dans la prédation, et que même si un homme n'est pas comme ça et ne se construit pas culturellement de cette façon-là, il en profite forcément à un moment ou à un autre. Il profite d'être un homme. Vous voyez, un homme tout seul au restaurant, enfin pas en ce moment parce que personne n'y va.
Oui, c'est pas le bon exemple.
Non, mais si quand même, tu vois un mec tout seul au restaurant, ça le choque pas. Une femme toute seule au restaurant, ça je peux vous le dire parce que je l'ai expérimenté. On te colle au fond à côté des chiottes et on te sert quand on a le temps. Mais bien sûr, mais évidemment.
Vraiment ?
Vraiment. Et ça, vous pouvez déguisez-vous en femme, vous verrez ce que ça donne. Et on voit bien la difficulté pour lui de nager comme ça à contre-courant, et, oui, et les moqueries dont il a été l'objet, le sourire condescendant parfois de ses camarades, etc. Et en fait, il était à 25 ans, c'est quand même un type qui a voulu se suicider. Enfin, ça a été, à mon avis, très difficile pour lui d'accepter un certain nombre de choses et d'en construire d'autres à côté.
Arnaud ?
Moi, je suis tout à fait de l'avis de Michel. C'est extrêmement sec. Il y a évidemment quelque chose d'intéressant au départ, c'est-à-dire à savoir qu'on ne naît pas homme, on le devient, pour retourner la célèbre formule.
Mais en quoi t'as
il
trouvé
invente
ça
le concept de genration, c'est-à-dire de devenir genré en fonction des générations. En l'occurrence, c'est pas la mienne. Moi, j'ai 10 ans de plus que
Jacques Blanca. Tu sais, quand tu lis Laetitia, les mecs de 20 ans,
c'est intéressant,
ils sont
parce
pas
que quand
mieux,
je le lis, j'ai vraiment l'impression d'avoir 10 ans de moins. Mais c'est que les choses sont inversées. Je trouve que c'est un livre de petits vieux, par ailleurs. Mais surtout, il y a, à mon avis, dans son analyse, un pur refoulé. À un moment, je prends un exemple. À un moment, c'est son frère qui lui rappelle que son père lui donnait de super torgnoles. Il n'en fait rien, Jacques Blanca, sauf que, des pages plus loin, il avoue qu'il a fait une thérapie après une engueulade avec son père devenu adulte. Mais donc, il y a cette figure du père, de la violence du père, elle dit quelque chose de la masculinité, elle dit sans doute quelque chose de son désir qui n'explore pas du tout d'avoir voulu faire son service militaire alors que c'était très facile de se faire exempter à cette époque. Tout ça n'est absolument pas convaincant, c'est qu'il n'y a absolument pas de réflexion, finalement,
absolument,
autour de cette question du masculin. Il ne fait que aller interviewer sa première petite amie à l'école primaire, mais ça n'a aucun intérêt. Et ses souvenirs de Goldorak et de Récréa 2, je suis désolé,
mais
si en plus il y avait un pouvoir d'écrivain, qu'il n'a absolument
qu'il n'a pas.
Il écrit comme un professeur.
On
voit que ce livre n'a pas lu.
À partir de là, si vous voulez, il peut réfléchir sur ce qu'il veut. Ça ne donne rien en tant que littérature, et même en tant que littérature de sciences sociales. On est quand même loin. Puisque à un moment, il dit quand même, il est d'une fatuité par ailleurs, absolument incroyable, en disant je veux renouveler la littérature et les sciences sociales. Mais enfin, on est loin de Claude Lévi-Strauss ou de Roland Barthes pour prendre deux qui ont peut-être réussi effectivement la littérature.
Il s'est passé un petit basculement avec le succès de Laetitia, qui est un énorme succès, où tout d'un coup, il a basculé de la fonction d'historien pur à la fonction d'écrivain historien.
En réalité, il n'a pas vraiment de relation avec la littérature. Ce livre n'a pas lu La lettre au père de Kafka. On le voit.
Ça s'entend. Ben oui, bien
Jean-Claude.
Sûr. Et d'ailleurs, l'absence, vraiment, l'absence du père et de
s'il
sa violence.
Plaît.
Jean-Claude.
S'il te plaît.
À la question que tu as posée, ma réponse est oui. Voilà. Oui, il m'a convaincu. Oui, je trouve que c'est un livre très beau. Que c'est un livre amusant. Je trouve que c'est un livre émouvant. Voilà. C'est le livre d'une génération. Mais je te retourne le compliment.
Bonne année à tous.
Je trouve que c'est le livre de la génération, en effet, Récréa 2, top 50, génération porno et sida. Et je trouve que c'est en effet une très belle radiographie et une très belle évocation de cette génération-là.
Mais tu trouves qu'il en tire quelque chose?
Parce que quand j'entends dire, il a pas lu Le Grand Mole, ni il parle pas de Kafka, très bien. Il en tire rien littérairement, très bien, les gars. Vous êtes dans ce truc-là. Sauf que vous faites des impasses et vous écartez ce que vous ne voulez pas voir. C'est une façon de faire. Sur les torgnoles qu'il prend de la part de son père, c'est de là dont il dit qu'il est devenu un as de l'anxiété, un champion de l'obsession. Il dit que c'est même ce qui l'a handicapé dans la vie. Et toi, de revers de main, tu dis, il en fait rien. Toi, tu dis, il n'a pas lu Kafka. Voilà. La très belle évocation de son premier amour avec cette fameuse Chloé en CE2. Mmh. Les deux pages qu'il consacre à cette émotion qui va cristalliser toute sa figure.
Mais ça ne va pas de dire ça, c'est pas d'une faiblesse.
Mais si, bien sûr, c'est extrêmement faible.
C'est très, très faible.
La façon dont cette cristallisation amoureuse à cet âge-là, dénuée de sexualité, combien le bonheur irradiant qu'elle envahit, qui dure deux pages, ce qu'il en dit, et comment cette émotion-là va dicter même sa vie sexuelle, comment le retour qu'il fait 40 ans après, en retrouvant cette fameuse Chloé, vous irez dire ensuite que c'est de la littérature de sciences sociales, vous foutez du monde, les gars. Vous foutez du monde, vous avez décidé de vous le faire, et donc vous le taillez menu, sans faire attention au texte.
Est-ce que tu peux admettre que dans cette émission, il y ait des avis divergents, je suis très clair et un peu grave, ils n'ont pas décidé de se le faire, ils expriment leurs opinions. C'est pas la même chose.
Mais c'est le principe de l'émission, il y a un ton pour casser les gens qui parfois est un petit peu pénible et qui surtout
ne tient pas. Tu viens de le faire avec Mathieu Lindon, oui, Jean-Claude.
Je m'adapte, je fais le caméléon, je fais comme les autres, voilà. voilà. Je dis simplement que ce livre est intéressant parce qu'il n'est pas monolithique sur la masculinité. Ce qu'il dit, ce qu'il explore même, c'est les différentes façons de cette masculinité-là. Il parle de la masculinité de force, il parle de la masculinité de... C'est toutes les ruses et les stratégies, c'est très intéressant, pour essayer de l'adapter à sa personnalité, pour se détacher des modèles dominants, sauf que tu es toujours lesté d'une histoire familiale, l'éternuel du père, collective, et du poids d'une éducation et de modèles envahissants. J'aime beaucoup quand il dit « j'écris pour les filles de la récré », côté Vincent Delerme qui m'a beaucoup plu, mais aussi pour sauver ce que j'aime. Et c'est ça, c'est un cimetière intime aussi, son livre. C'est à la fois la biographie d'un disparu, c'est-à-dire le petit Jean Blanca qu'il était, ce qu'il est devenu, mais aussi tous ceux qui ont traversé sa vie et qui sont morts pendant ce parcours-là.
Et je suis désolé.
T'as vraiment décidé d'en dire du bien, hein.
Mais il semblerait, ouais. J'espère au moins avoir convaincu.
Non, c'était un peu d'humour. Si, si, tu as décidé de te le faire.
Un garçon comme vous et moi, c'est donc le livre qui faisait débat d'Ivan Jablonka, et c'est aux éditions du Seuil. L'enfant de la prochaine aurore, traduit chez Albin Michel par Isabelle Reynarez, c'est le nouveau roman de l'américaine, de l'amérindienne Louise Erdrich. Figure légendaire du mouvement de la Renaissance amérindienne, saluée d'ailleurs aussi bien par Philippe Roth que par Toni Morrison. Presque tous ses livres se déroulent dans le nord du Dakota, où elle a passé son enfance dans la réserve de Turtle Mountain, même si elle vit à Minneapolis, où elle tient une librairie spécialisée dans la littérature indienne, librairie dont elle dit volontiers que c'est sa manière à elle de faire de la politique. Et c'est justement à Minneapolis, la ville, je le rappelle, où George Floyd a été tué par des policiers en mai dernier, que l'héroïne de son nouveau roman, la jeune indienne Cedar Oak Songmaker, 26 ans, qui a été adoptée à la naissance par un couple de blancs progressistes, que donc Cedar attend un enfant, et ça se passe dans le monde de demain, après une apocalypse biologique. Les États-Unis sont désormais dirigés par un gouvernement religieux et totalitaire qui oblige les femmes enceintes à se signaler, et donc Cedar va devoir fuir pour trouver un lieu où elle peut se réfugier et surtout retrouver ou tenter de retrouver sa famille biologique. Évidemment, c'est une fable qui n'est pas sans rappeler la célèbre Servante écarlate de Margaret Atwood, avec une scène d'accouchement qui est d'anthologie.
Il ne faut pas la raconter,
Cette scène-là est incroyable. Ouais. Est incroyable. Arnaud.
Moi, je ne connaissais pas Louise Erdrich.
Ah
et
bon?
Non, et je me suis du coup
de l'intérêt de venir au Masque et la Plume, quand même, de temps en temps.
Renseigné, et donc, ce qui est très intéressant, c'est quand on connaît, finalement, la biographie de Louise Erdrich.
Oh non, tu vas parler d'accusations qui ont été portées contre le...
Oui, mais avant ces accusations, donc elle a été mariée avec Michael Doris. Or, et qui est Michael Doris? C'est très intéressant, hein, quand même. C'est le premier homme célibataire américain, et sans doute d'ailleurs du monde entier, à avoir adopté un enfant. En 1971. Puis après, il a adopté deux autres enfants. Puis il s'est marié avec Louise Erdrich et ils ont eu trois filles. Un des fils adoptifs de Michael Doris a accusé le couple.
Un autre s'est suicidé.
D'abus sexuels. Un autre a été renversé dans un accident de voiture. Voilà.
Mais après, il y en a un autre qui s'est suicidé.
Et ensuite, Michael Doris s'est suicidé après que il a été accusé d'avoir eu des abus sexuels sur une de ses filles.
C'est assez gratifiant.
Vous comprenez? Si on comprend pas ça, si on peut pas comprendre pourquoi il y a quelque chose de complètement starbé dans ce livre. Oui. Quand même, c'est une fiction, donc complètement étrange, de syncrétisme religieux entre la pensée magique des Amérindiens, le catholicisme,
la Vierge Marie.
Dans une atmosphère apocalyptique de créationnisme et d'évolution. C'est le contraire de l'évolution. Si on ne comprend pas d'où ça vient, et d'ailleurs elle-même dit que ce sont des textes anciens qui ont été retrouvés par ses filles dans ses anciens ordinateurs, et que c'est à partir de là qu'elle a recommencé à travailler. Donc il y a vraiment quelque chose qui renvoie à cette histoire, qui est quand même le thème de l'adoption, du parent biologique, du parent qui n'est pas biologique, des parents adoptifs, et ça parle que de ça. Donc on voit bien quand même, là, quand j'ai découvert l'histoire, la biographie de Louise Erdrich, j'ai commencé à comprendre un peu mieux ce livre, qui par ailleurs, au début, commence, à mon avis, très très bien, lorsque l'héroïne, la narratrice, découvre sa famille amérindienne, donc puisqu'elle a été adoptée par des Blancs, et qu'elle découvre sa vraie famille, sa famille biologique, il y a quelque chose là, la rencontre est absolument merveilleuse, très très bien racontée. Ensuite, à mon avis, ça part n'importe comment. Bon, c'est bien meilleur que La Servante écarlate, à mon sens, hein, d'un point de vue littéraire.
On reconnaît la tonalité de La Servante et les sujets de la Servante écarlate.
Oui, hein. Il y a quelque chose de ça, mais il y a ce même délire religieux, finalement, et aussi, quand même, une inquiétude profonde par rapport à la santé mentale de l'Amérique. Quand vous lisez ça, dites qu'effectivement, il y a un problème avec ce pays.
Je rappelle que c'est une dystopie, hein, c'est pas...
Une dystopie, pour le coup. On sait bien d'où viennent ces thèmes. On sait bien qu'il y a un retour de l'anti-darwinisme aux États-Unis. Et donc, cette histoire de dévolution, c'est-à-dire que d'une humanité qui n'arrive plus à évoluer selon les schémas darwiniens et qui fait qu'il y a une dictature religieuse qui prend le dessus et qui kidnappe les femmes enceintes. Enfin, quand vous lisez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête?
Je me permets de dire qu'on peut lire ce roman sans connaître forcément la biographie de Louise Erdrich. Patricia ?
Moi, j'ai trouvé que c'était aussi bien sur le plan de l'histoire que sur le plan littéraire tout à fait impressionnant, parce que, en fait, elle dit tout dès la première page. Après, il faut en écrire encore 400. Et elle le fait magnifiquement, avec une tension... Pardon ?
Il n'y a pas d'obligation.
Si, non, mais je veux dire, moi, j'ai suis rentrée dans ce livre jusqu'à la dernière page en ayant une tension intérieure, je veux dire, presque des effets physiques. Et même quand, parce que finalement, cet ennemi, alors on sait que bon, ça a à voir avec les religieux, mais cet ennemi, il est à la fois partout, il n'est nulle part, il est invisible. Tu sais pas, mis à part les petites mains à l'hôpital, quand elle se retrouvera hospitalisée, cette jeune femme, tu sais pas vraiment à qui t'as affaire et tu sais pas complètement non plus ce qui va arriver. Et sur la recherche génétique, ça aussi, pourquoi est-ce qu'elle veut aller voir sa mère biologique? C'est parce que elle veut connaître ses origines et elle veut savoir s'il y a des tares génétiques. C'est un des points principaux. Mais je trouve que par exemple, tout le passage à l'hôpital est extraordinaire, parce que tu te dis qu'à la troisième pelote de laine qu'elles sont en train de faire avec leur couverture, il y en a marre. Eh ben non, il y en a pas marre. La façon dont elle s'adresse à cet enfant, c'est une échographie permanente. Elle le voit tout à coup, ben voilà, ton cœur est comme si tes poumons sont comme ça, tu commences à bouger. Enfin, je trouve ça extraordinairement...
Jean-Claude.
Enfin, c'est très émouvant et c'est très
fort.
Moi,
j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Dans ce livre, je trouvais qu'il y a deux livres dans ce roman. Il y a le roman des origines et il y a le côté ensuite un peu SF, futurisme, mais futurisme assez proche. Dans le roman des origines, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette narratrice est donc une Amérindienne Ojibwe, qui est donc adoptée par ce couple de blancs, tu me l'as rappelé, qui sont tous deux avocats. Et elle dit, j'appartiens à la génération flocon de neige. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça, génération flocon de neige? C'est très joli, c'est privé de ma différence. Je fondais, dit-elle. Et on est au cœur d'un thème tout à fait contemporain, qui est l'idéalisation des origines. Parce que cette jeune Amérindienne a idéalisé ce que pouvaient être ses parents, ses ancêtres. Elle pense qu'on l'a coupée de quelque chose qui était spirituellement très important. Et d'un seul coup, elle s'aperçoit que sa famille est assez quelconque, qu'ils font un boulot assez quelconque et qu'ils sont pas si intéressants que ça.
Enfin, elle a quand même une mère très aimante.
Tout en étant Amérindien. Mais je trouve que c'est une... Alors là, pour le coup, je trouve que c'est tout à fait intéressant. C'est quelque chose d'assez contemporain, c'est-à-dire idéaliser ses origines jusqu'à un point que la réalité ne peut plus rejoindre. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et sur le futurisme, moi, je trouve qu'elle n'est pas très loin. C'est quoi le futur qu'elle décrit? C'est un futur proche où l'écrit aura disparu. C'est la fin de l'épanouissement de la culture et de la pensée. C'est un monde où l'ordinateur voit tout, suit tout, piste tout, où les scientifiques trafiquent l'ADN, où même le chant des oiseaux mute, où c'est une société fragmentée, éclatée, où tous les noms de rue sont débaptisés, les numéros sont changés, les frontières sont fermées, et les femmes enceintes raflées, pour essayer d'aller vers la pureté, pour ne conserver que les enfants
qui
sont
purs. Avec un pouvoir qui est très trumpiste, hein, quand tu...
Oui, oui, absolument. Ah, mais c'est le pouvoir trumpiste. Ben voilà. Ce qu'elle décrit n'est pas si loin. Sauf que, voilà, à la différence de toi, je trouve que, par exemple, la pelote de laine est un peu longue. Il y a un tiers de trop, et ça tire à la ligne un peu, Michel, dans le dernier tiers, quoi.
Moi, je veux dire, j'ai profondément détesté ce livre. Pour la raison qu'a très bien dit Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un livre qui respire le malaise, le profond malaise dans lequel la société américaine d'aujourd'hui est vraisemblablement plongée, et nous en avons les symptômes.
Bah oui, mais en quoi c'est...
Mais parce que j'ai eu, en le lisant, le sentiment que l'auteur ne faisait absolument pas du tout le discernement entre... Enfin, dans sa relation...
Oui, c'est pas clair du tout. Il n'y a pas du tout quelque chose de critique.
C'est absolument pas clair du tout, du tout, du tout. Il y a un malaise.
Elle appuie jamais les dingues qui sont derrière ça. À aucun moment.
Elle ne s'en défait pas.
C'est pas un livre en faveur de ça.
Elle est prise dedans. Elle ne s'en défait pas.
Elle est prise dedans. Ses personnages sont prises dedans.
Et c'est pour le lecteur, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un malaise épouvantable. J'ai refermé ce livre.
C'est le but.
Et en me disant que plus jamais je ne le rouvrirai.
T'as refermé ce livre comme on ferme un téléphone insupportable, quoi. C'est, pour toi, c'est quelque chose qui est tout d'un coup irrépressible, quoi. L'enfant de la prochaine aurore, c'est chez Albin Michel, c'est signé Louise Erdrich. On va aller vite parce qu'on n'aura pas le temps sinon de les évoquer tous les deux. D'abord, Là où nous dansions, chez Rivage, un roman de Judith Pérignon, à qui on doit notamment Victor Hugo vient de mourir, qui était très bien, et deux livres coécrits très importants avec Marceline Loridan-Evans et Tu n'es pas revenue, ainsi que L'amour d'après. Ce roman aux allures de polar, dont le héros est Ira, un flic d'élite confronté en 2013 à l'assassinat d'un jeune street artiste français qui s'appelait Bilal Bereni, c'est d'abord un roman choral sur la faillite, la paupérisation, le démantèlement de la ville de Détroit et les ruines du Brewster Douglas Project où s'est déroulée l'enfance d'Ira. Le Brewster Douglas Project, du nom de l'abolitionniste afro-américain Frédéric Douglas, et c'est le plus grand projet résidentiel de cette ville que le racisme et la violence économique ont brisé. Je rappelle que c'est une ville dont la population est à 80% noire. Michel.
Alors, moi j'avais beaucoup aimé Victor Hugo, là.
Oui, c'était un petit livre, hein, sur les derniers jours et l'enterrement
de Victor Hugo,
le choc national que ça avait été.
Où elle avait réussi à faire sentir la grandeur de Hugo. Bon. Là, avec Détroit, c'est un peu la même opération, d'une certaine manière, bien que ça n'ait évidemment rien à voir avec le 19e siècle parisien de la mort de Victor Hugo.
Non, ça, c'est bien que tu l'aies perçu.
J'ai perçu ça,
pas
oui.
du tout la même époque.
C'est quand même une ville française, Détroit. Hein, ça a été construit par des Français. Non, mais peut-être que c'est à cause de ça, ça peut faire un
Donc, je trouve son livre, vraiment, c'est un objet littéraire assez étonnant. À qui, à mon avis, manque un peu justement la fibre américaine. Je n'ai pas senti en le lisant la grondeur, le grondement du trafic, des choses qui sont l'Amérique vraiment et sans lesquelles on peut pas avoir une idée de l'Amérique. Et là, ça manque un peu.
Pourtant, moi, je trouve que c'est un portrait de la ville.
Oui, c'est vrai.
Alors,
une image que j'ai trouvée d'une force incroyable dans ce livre, c'est l'image de la bibliothèque. Gigantesque bibliothèque, une des plus gigantesques qu'elle ait vues dans sa vie et qui vraiment, là, donne, bizarrement, c'est drôle que ça joue juste ce moment-là, donne ce sentiment de gigantisme et de grandeur. Mais sinon, c'est un très beau livre.
Patricia.
C'est un livre magnifique. Moi, j'aime tout chez Judith Pérignon. Déjà, j'adorais les portraits qu'elle faisait dans
Libération. Dieu sait que c'est varié, hein.
Ah, mais c'est complètement varié. Et elle a une espèce de piquante empathie. Elle avait aussi écrit sur Théo Van Gogh, qui était absolument magnifique.
C'était son premier livre, et ancienne là, journaliste à Libération.
Voilà, elle est allée pour le magazine 21, elle est allée à Détroit en se disant, mais où est-ce que je vais tomber parce que c'est terrible, c'est effectivement une ville zombie, et elle a eu le coup de foudre pour cette ville qui est complètement dingue, qui a été construite en étoile, où il y a des autoroutes qui traversent la ville, des poches qui ne sont absolument pas reliées les unes les autres, et où l'industrie automobile a tué... Et
qui est une immense ruine.
C'est ça, c'est une ruine, mais malgré tout, dans cette ruine, il y a encore des gens qui vivent, on a vraiment l'impression comme une ville après la guerre,
c'est,
quoi.
T'as des fantômes qui
la traversent, tu vois une espèce de brume et elle est allée à la rencontre de ces gens. C'est pas parce qu'ils sont résistants qu'ils vivent là, c'est parce que je pense qu'ils peuvent pas aller ailleurs, à cause aussi de leur pauvreté. Quand on pense qu'on est obligé, comme il n'y a plus rien, on est obligé de pousser des légumes au sein même de la ville pour pouvoir croûter, quoi. C'est invraisemblable.
Arnaud ?
Ouais, j'ai trouvé ça presque illisible. En fait, je voudrais pas utiliser le vilain mot d'appropriationnisme, mais franchement, on se demande ce que Judith Pérignon est venu faire dans cette galère. C'est-à-dire, tout est lourd, le faux polar, là, qui ça fonctionne pas.
C'est le polar, c'est la seule chose qui fonctionne pas totalement. Mais le portrait de la ville,
c'est vraiment que des clichés.
C'est profond, moi.
Il y a pas, effectivement, ce que disait Michel, c'est pas Richard White non plus, hein, c'est pas Dos Passos non plus. Donc, la ville, on la sent pas. C'est très, c'est
que dire, la
construction chorale aussi. Voilà, tout le monde chante faux dans cette chorale. Donc, Eleanor Roosevelt, etc. Toute cette espèce de reconstitution. Pour moi, c'est le faux roman par excellence. C'est-à-dire le roman sur dossier. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de sentiment.
Jean-Claude.
Je suppose qu'on ne sera pas surpris d'apprendre que j'ai adoré ce livre.
Alors, non,
j'ai adoré ce livre. Je trouve que.
Qu'est-ce que t'es attendu, Jean-Claude?
Je suis d'accord. Mais la répartition des rôles fait qu'en effet.
Après avoir entendu Arnaud, je savais que t'allais l'aimer.
Mais évidemment. Évidemment. Sauf que je voudrais pas que l'auditeur se trompe. J'aime vraiment ce livre. Et pas seulement pour m'opposer à Arnaud. Je trouve que c'est un roman vraiment social. C'est un roman, quand tu dis choral, mais c'est aussi un roman de strates. C'est-à-dire qu'elle a une architecture de son livre qui est tout à fait intéressante. Elle le fait sur 5 saisons. Et à l'intérieur de chaque saison, elle fait un télescopage d'époque et de temps, et ça s'étend sur 80 ans. Et elle fait elle fait un roman sur une ville dont elle dit que ça a été le berceau du monde moderne. C'était une capitale industrielle, c'était un Eldorado industriel, et c'était aussi la capitale de l'exploitation de la classe ouvrière. Et que quand tout s'est effondré, c'est-à-dire que le capitalisme a décidé d'aller ailleurs, tout s'est effondré et les hommes se sont effondrés avec cette ville. Et je trouve que ce qu'elle fait de ça, de ce thème-là, est absolument passionnant. Et que moi, j'entends la ville, j'entends aussi le silence de la ville, j'entends comment cette ville est aujourd'hui peuplée de zombies, parce que, alors plus aujourd'hui parce que ça s'est un peu redressé, mais c'est une ville de zombies qui a tiré évidemment les badauds de la zombitude, et je trouve que des personnages sont très beaux. Le passage d'Eleanor Roosevelt, je me dissocie totalement de toi, je trouve que c'est un très beau moment, le passage d'Eleanor Roosevelt qui décide d'apporter sa notoriété et sa puissance pour construire des logements sociaux. Il y a toutes les vocations de la Motown, l'arrivée du petit Stevie Wonder, l'ascension de Diana Ross aussi. et comment les copines de Diana Ross se font rosser pour le coup. Non, moi je suis désolé, bon. et je trouve que contrairement à ce que tu dis, elle en fait une affaire personnelle. C'est-à-dire que non seulement il y a de l'affect, mais elle a décidé que cette ville était rentrée en elle, et elle en a fait une affaire personnelle comme son héroïne.
Là où nous dansions, chez Rivage, c'est signé Judith Perrillon, et on termine, si j'ose dire, en Sibérie avec l'ami arménien de l'écrivain d'origine russe et académicien français, Andrei Makine. C'est chez Grasset. Je rappelle en effet qu'il est né en Sibérie en 1957 et qu'il est devenu bilingue à 4 ans grâce à une vieille dame française qui lui a inspiré le fameux testament français, et qu'il est arrivé à 30 ans à Paris où il a obtenu l'asile politique. Et dans ce roman, Makine relate un épisode apparemment de sa jeunesse. Il a 13 ans dans les années 70. Il vit dans un orphelinat en Sibérie où il prend la défense de Vardan, qui est un adolescent devenu bouc émissaire et qui habite le quartier dit du bout du diable, où il va être accueilli par une petite communauté de familles arméniennes dont les proches sont jugés pour subversion séparatiste et complot anti-soviétique, et bientôt condamnés au goulag. Façon pour Makine de rendre hommage à ces Arméniens dont il dit que ce sont des copeaux humains, vie sacrifiée sous la hache des faiseurs de l'histoire, et aussi évidemment à son ami disparu, Jean-Claude.
On avait été très sévère la dernière fois avec le livre précédent d'Andrei Makine. Ouais. Et moi, je dois vous dire que je considère que celui-ci est un des meilleurs et des plus beaux d'Andrei Makine. C'est un grand roman sur l'exil, sur les destinées échouées. Il parle magnifiquement de la façon dont les exilés reconstituent avec très peu de choses le monde qui est avec eux, et comment ces Arméniens qui viennent se coller à un camp, enfin à une prison terrible, où certains d'entre eux ont été enfermés, comment ils reconstituent un peu d'Arménie entre eux. Il y a un éloge de l'humanisme, et la façon dont il le fait, Makine, est intéressant, parce qu'il dit, on peut toujours parler de partage et de fraternité, on se parfume à ça tout le temps. Il dit, ça doit être jugé que sur une seule valeur aujourd'hui, c'est savoir sauver quiconque bascule dans la détresse et le retenir de glisser vers la chute. Il a des expressions très belles. Il dit, en Sibérie, il dit, beaucoup n'ont pour toute biographie que la seule géographie de leurs errances. L'allusion au génocide arménien est faite en un demi-paragraphe. Et le secret du livre, le pivot, et je ne vais pas le révéler, tient sur une demi-page et est renvoyé au conflit Arménie-Azerbaïdjan. Dernière chose, moi, je vois ce livre un peu comme un mirage et une sorte de grand molne sibérien.
Michel ?
Alors, c'est très étrange, en fait.
Mais je sais, beaucoup de choses sont étranges.
Makine, j'avais détesté le précédent, je me souviens, on en avait parlé à Nancy. Je m'étais déchaîné.
Oui, mais celui-là dit du bien.
Et là, j'ai été mystérieusement, étrangement touché par une certaine... quelque chose qui est assez beau, enfin une atmosphère de fin de journée sibérienne où on fait chauffer le samovar en attendant le...
Tu en parles comme d'une pièce de Tchekhov.
Oui, mais c'est un peu ça.
Enfin, alors, c'est plus dur quand même.
Oui, mais ce qui est étrange, c'est que tu ne sais pas très bien pourquoi Là, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai finalement pas détesté ce livre. Je ne saurais pas dire. Mais il y a, je ne sais quelle essence, je ne sais quelle atmosphère.
Papier d'Arménie.
Oui, peut-être.
Patricia. Voilà, donc
plutôt mais je suis assez d'accord avec Michel. Je trouve qu'il y a eu une beauté dans une noirceur absolue, un désespoir total. La vie humaine n'a plus aucune valeur. Ce gosse est orphelin, donc il apprend aussi la douceur d'une famille à travers celle de son copain Vardan, qui arrive comme une lumière, qui lui montre la voie à suivre, qui lui montre le ciel, qui lui fait prendre aussi conscience de ce que c'est qu'être fier de son peuple. Je trouve qu'il y a des passages absolument magnifiques, comme par exemple l'histoire d'un oisillon qui va être la seule fierté d'une vie.
C'est absolument.
Moi, je trouve qu'il a une façon de faire vivre une mémoire dont il fait partie finalement.
Et puis le sort qui a été réservé à ce peuple, quand même.
Et le sort qui a été réservé à ce peuple. Et il met à chaque fois toute émotion inutile est tenue à distance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque le pire est entre les lignes et dans le non-dit. Moi, j'ai trouvé que c'était un magnifique roman.
Arnaud ?
Eh bien, moi aussi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Franchement, il y a une économie de moyens, parce que c'est quand même un livre très court, c'est presque une novella, une économie de moyens, une manière justement de ne pas tomber dans l'apitoiement sur le génocide arménien, qui effectivement, tu as raison, est traité en 10 lignes. C'est tout à fait autre chose, c'est une histoire là encore, mais un petit peu comme le livre de Mathieu Lindon, une histoire d'amitié entre, là, ce sont deux jeunes adolescents.
Oui, ils ont 13 et 14 ans.
Et tout ce qui concerne leur chasse au trésor, etc., tout ça est très beau. Et il y a effectivement une lumière, une espèce de lumière de fin de journée qui nimbe tout ce récit, qui fait que c'est à la fois d'un classicisme certain, mais en même temps intemporel et très... séduisant finalement. Oui, c'est pas du tout un livre triste. C'est un livre plein d'une humanité peut-être en train de disparaître, mais en tout cas extrêmement touchante.
Et donc le livre s'appelle L'ami arménien. Il est signé André Makine. Et c'est chez Grasset.
On a tous été d'accord sur celui-là.
Bah, tout d'un coup, mais c'est
incroyable.
Comme,
bonne année.
J'aurais voulu scénariser cette émission que je n'aurais pas mieux terminé avec ce livre, n'est-ce pas, Michel?
Oui, je peux faire sonner mon portable. Si
voilà,
vous voulez,
absolument. Et donc, maintenant, l'heure est venue. On a tout à fait le temps de donner des conseils. Je rappelle qu'il y a 15 jours, on a commencé à parler de la rentrée littéraire et on vous a déjà conseillé, notamment, les romans excellents de Yasmina Reza, de Marine Diaye et d'autres. Donc, ne manquez pas, si on peut la réécouter autant qu'on veut en podcast, cette rentrée littéraire a bien commencé, puisque je vous rappelle, c'est le seul secteur culturel qui arrive à s'en tirer. Et dans cette situation si dramatique que nous vivons actuellement, je pense évidemment au spectacle vivant et au cinéma. Donc il faut lire, lisez, lisez, lisez. Et le temps est venu des conseils. On va commencer avec Patricia.
Alors c'est un premier roman, c'est italien, donc c'est traduit. Ça s'appelle L'Empire de la poussière. C'est signé Francesca Manfredi, c'est chez Robert Laffont. Elle a écrit beaucoup de nouvelles, cette femme apparemment, mais là c'est son premier roman. Et c'est une histoire sur trois générations qui se passe à la campagne, dans une maison qu'on appelle d'ailleurs, enfin bon, c'est la maison aveugle, tellement les fenêtres sont petites. C'était évidemment pour protéger à la fois du froid et de la chaleur l'été. Et il y a un climat d'une étrangeté incroyable. Je trouve que c'est presque surnaturel à certains moments. Il y a tout ce qui est enfoui, des secrets, on devine plein de choses. Il y a tout à coup des grenouilles qui arrivent, des sauterelles, des écureuils, des moustiques. Ça a une atmosphère de fin du monde.
Il n'y a pas de chevaux.
Mais les pauvres avec les moustiques, les chevaux et les moustiques, ça fait pas bon ménage. Et je trouve que c'est à la fois un livre qui peut être très sombre parce que c'est les circonstances de la vie qui sont incroyablement prégnantes, mais en même temps, ça prouve aussi qu'on peut partir. Je vous raconte évidemment pas pourquoi, mais qu'on peut aller vivre ailleurs et autrement.
Et donc, on rappelle le titre.
L'Empire de la poussière de Francesca Manfredi, et c'est chez Robert Laffont dans la collection Pavillon.
Le conseil de Michel.
Alors, moi, je vous conseille par John Steinbeck, écrivain.
C'est un nouveau venu.
Oui, c'est un petit nouveau qui se lance en Amérique. Et en fait, c'est le journal de travail des Raisins de la colère.
Ah oui, je l'ai lu.
Ça, alors.
Super.
Bon, ben voilà.
C'est-à-dire,
pendant qu'il écrivait,
c'est super.
pendant qu'il écrivait Les raisins de la colère, il tenait
C'est sorti depuis un moment, quand même, Michel. Hein.
C'est vrai?
Ouais.
Merde.
C'est pas peu importe. Dernière, mais c'est pas grave.
Pas merde, super. À France Inter.
Oui, enfin, on ne dit pas merde sur notre chaîne.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est 2018, oui, ça fait ça nous.
Oui, ouais, c'est pas grave. Un moment, quand même.
C'est pas grave. On peut le trouver, j'imagine. Bon, dis-nous.
Enfin, je suis d'accord.
Tu nous en dis deux mots, quand même, Michel,
alors,
s'il te plaît.
Je trouve que c'est toujours le charme des journaux, c'est-à-dire c'est un journal de travail, donc c'est le temps qu'il fait, une préoccupation littéraire. C'est quelque chose de très très informe et en même temps très très centré, très concentré sur le travail du livre. Alors, je l'avais gardé pour le lire, pour un jour comme ça où j'aurai l'occasion d'en parler. Et ce jour est venu.
On a de la chance que tu nous aies sorti un livre de 2018 et pas de 1742.
Ça, c'est déjà, c'est une bonne chose. En même temps, il l'a pas écrit. Steinbeck l'a pas écrit.
Tu peux juste me dire chez quel éditeur on peut le trouver éventuellement?
Chez Segers, éditeur remarquable. Et il y a bien marqué inédit sur la couverture.
Mon conseil, c'est un premier roman qui paraît chez Minuit, qui s'intitule Elle, virgule la mer, pas l'océan, hein, et qui est signé Emmanuel au masculin, Chaussade, donc chez Minuit, et après la mort de sa mère, donc l'auteur découvre l'histoire de cette femme, tout ce qu'elle a enduré, souffert, et les terribles secrets de sa famille, un thème très à la mode. J'ai rarement lu autant d'horreur en si peu de pages, ça doit être 140 pages, et on est d'autant plus saisi que le style est totalement lapidaire. Pour moi, c'est une vraie découverte, c'est donc un premier roman, il n'y en a pas tant que ça chez Minuit, qui est signé Emmanuel Chaussade et qui s'appelle Elle, virgule, la mer. Le conseil de Jean-Claude.
Un livre sensationnel de Vincent Duluc qui s'appelle Carole et Clark. C'est l'histoire de Carole Lombard et de Clark Gable, donc couple mythique d'Hollywood à la fin des années 30, qui va durer que 3 ans puisque Carole Lombard va mourir dans un accident d'avion le 16 janvier 42, 3 jours avant la première de To Be or Not To Be. Donc on est en pleine mythologie du bonheur idéalisé que savait faire mousser Hollywood. C'est une évocation sensationnelle parce que il y a un travail sur le style, sur le rythme des phrases. Il y a un regard qu'a Duluc sur ces deux-là. Sur Carole Lombard, il explique qu'elle est glamour, qu'elle est libre, qu'elle a des réparties cinglantes, qu'elle jure comme un chartier. Il dit, sur certaines photos, elle était presque nue et on ne regardait que ses yeux. Sur lui, Clark Gable, il dit, il est possible que tous les deux, elle et lui, aient eu moins de partenaires à l'écran que dans la vraie vie. C'est un livre sensationnel parce que le style est enthousiasmant, parce que les idées sont originales et qu'il y a une évocation, il y a quelque chose. Et ça me permet de rappeler et de le redire encore une fois que le journalisme sportif, parce que Vincent Duluc est le spécialiste du football à l'Équipe, que le journalisme sportif est une véritable école de style et Vincent Duluc prouve une nouvelle fois.
On va conseiller ce livre à nos amis du Masque et la Plume Cinéma et donc je rappelle le titre.
Carole et Clark chez Stock. Vincent Duluc.
Et enfin, Arnaud, ton conseil?
Un premier roman aussi, français, de Thomas André, qui s'appelle L'Avantage, aux éditions Tristram. C'est un roman qui devrait plaire à Mathieu Lindon, lui qui voulait écrire à la Villa Médicis. Il raconte qu'il voulait écrire un roman qui raconterait un match de tennis qu'il fera des années plus tard dans Champion du Monde. Et là, c'est un roman qui raconte plusieurs parties de tennis. C'est formidable. Moi, je suis pas très tennis, mais franchement, tous les récits des parties sont formidables. C'est l'histoire d'un adolescent qui est en vacances, qui participe à un petit tournoi dans un club et donc il est à la fois en vacances, donc il est avec ses copains, ses copines, ils vont à la mer et puis un jour il y a le match, puis voilà, puis il gagne, et il va aller jusqu'en finale. C'est un très beau roman, évidemment sur le tennis, mais aussi sur l'adolescence, sur la solitude. C'est vraiment, là encore, une espèce d'atmosphère d'un grand monde contemporain et avec une écriture là aussi, sur le sport, qui est totalement magnifique.
Tout
voilà,
à fait,
Thomas,
tout
André, si vous aimez le tennis,
c'est chez Tristram.
L'Avantage, c'est chez Tristram.
Tout à fait. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Patricia Martin et Michel Crépu. Tu peux reprendre ton téléphone. Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspien-Jas, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sélam. Et ce soir, au Théâtre de l'Alliance Française, à la technique, il y avait, et je les remercie, Cédric Chatelus, ainsi que Stéphane Touvenin, pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de cinéma, de réédition de cinéma. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment. Thank you.
Et après le journal, vous retrouvez Stéphanie Duncan pour Autant en emporte l'histoire.